Bienvenue sur Alive FM 93.1. Je suis Cad, l'homme du 92. Vous écoutez Championne, l'émission sur les sports féminins. Nous découvrirons ce soir ou redécouvrirons une légende de sa discipline. Et cocorico à nouveau, il s'agit de Laure Manaudou, ou Laure comme ses médailles, puisque c'est son surnom. Nous parlerons également de natation en général, et plus particulièrement de la natation féminine. Pour m'accompagner ce soir et pour la première fois, l'extraordinaire Sandrine. Comment ça va, Sandrine?
Bah écoute, ça va.
Est-ce que tu veux qu'on te donne un petit nom?
Non, j'ai pas trop besoin d'un petit nom. Surtout que va essayer de trouver un diminutif à Sandrine, mais non.
Sanson, Sandrine?
Non, on les a tous faits, ils sont tous moches, donc s'il te plaît, non.
C'est d'accord. Eh ben, où que vous soyez, bonne écoute et merci de votre attention. Eh bien, salutations à tous, auditrices, auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et nous allons donc parler natation, on va parler bassin, on va parler crawl, on va parler culbute, on va parler coulée. C'est bon, les bons termes, mon invité aujourd'hui, c'est Sandrine, est-ce que ce sont les bons termes?
Oui, dans l'ensemble, oui.
Dans l'ensemble, ça va, j'ai pas fait de bêtises?
Non, ça va.
Ah, très bien, j'ai bien travaillé alors du coup. Alors d'abord, nous présenterons un peu notre invité du soir, Sandrine en l'occurrence, puis on va parler de la natation dans cette première partie. Alors, j'espère que vous allez bien, installez-vous, c'est parti. Et d'abord, Sandrine, ça va?
Oui, ça fait 2 minutes, même pas, que tu me l'as demandé, donc oui, ça va. Pour l'instant, ça va.
J'adore faire ça. Alors, si tu étais un dessert, tu serais quoi?
Waouh, un millefeuille, sans aucun doute.
Et pourquoi?
Parce que c'est le dessert que je préfère, je sais pas. Puis il y a plein de couches pour essayer de comprendre la personne. Elle, tu vois, je suis un peu le même truc. C'est-à-dire que pour me connaître, il faut essayer d'aller profondément. Voilà.
D'accord, donc plusieurs couches. Le millefeuille, c'est aussi mon dessert préféré. Moi, j'aime beaucoup le millefeuille. C'est très, très bon. Bon, après, moi, je suis un enfant des années 80, donc le millefeuille de Auchan, pas le plus délicieux.
Ah non, ça, c'est pas un millefeuille. Je suis désolée, mais non, ça ne l'est pas.
Si tu devais être une couleur...
Ah, violet, évidemment.
Ah, pourquoi?
C'est très simple. Déjà, ça fait partie de mon deuxième prénom et c'est surtout le prénom de quelqu'un qui a été très important dans ma vie.
D'accord.
Donc voilà.
Très bien, réponse logique. Et enfin, si tu devais être une île déserte?
Bah, tu sais, je ne les connais pas toutes, en fait. Donc, je n'ai peut-être pas tous les noms.
Ou une île, tout court, comme ça. Est-ce qu'il y a une île qui te vient en tête? Un truc où tu te dis, ah, ça me correspondrait bien. Ou j'aimerais bien y aller.
Si c'était une île, ce serait plus une île soit sur la partie ouest, vers la Bretagne, soit en Scandinavie, parce que j'aime pas la chaleur.
Dans la vallée.
Non, même en Scandinavie, tu vois, vers l'Islande et tout ça, pourquoi pas. Enfin, je suppose que la plupart des gens ne répondraient pas ça, mais pour le coup, voilà.
D'accord, je vois qu'on aime les Vikings, ok.
Écoute, j'en ai peut-être dans les descendances, je ne sais pas.
Alors maintenant, on va faire un petit focus sur la natation. Alors, première question déjà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une coulée?
Oui, une coulée, c'est quand vous partez... quand vous commencez pour faire une longueur et que donc en fait vous partez sous l'eau et généralement bah, vous vous aidez en poussant avec vos jambes et donc en fait la coulée, c'est-à-dire que vous en compétition vous pouvez faire seulement 2 mouvements, peu importe la nage que c'est, que ce soit la brasse coulée ou bien le crawl, vous faire 2 mouvements et ensuite vous devez remonter les bras. Et pendant cette période-là, en fait, il faut bien étirer les mouvements pour aller le plus loin possible. Et en fait, ça s'est travaillé pendant les entraînements parce que du coup, ça fait gagner énormément de distance, en fait. Mmh. Et je ne sais pas si vous regardez les compétitions, c'est vraiment... des fois, c'est significatif, ils ne sortent vraiment pas au même moment. Et, oui. Et du coup, ça nous permet de faire une distance, de nous retirer de la distance sur un 50 mètres ou peu importe là. Et du coup, d'éviter de faire les mouvements en surface, en fait. Donc, si vous êtes moins fort sur la distance, la coulée, elle vous permet de pouvoir grappiller temps et de la distance.
Oui, donc pour ceux qui ont vu les Jeux Olympiques, par exemple, un lion marchand, bonne coulée.
Ah, totalement. Bah, Léon Marchand, en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa nage. Elle est top. Donc, voilà. Non, mais c'est très utile, vraiment très utile en compétition.
D'accord. Donc, en fait, on fait le dauphin sous l'eau, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, soit tu quand tu fais, enfin, ça dépend si c'est une nage sur le ventre, oui. Par contre, si tu pars sur le dos, c'est une coulée, mais à l'envers, en fait. Mais le principe est le même. Okay. Et là, dans ces cas-là, les bras restent fixes et c'est simplement les pieds, un peu comme une sirène, qui bougent pour faire la coulée.
Excellent. Oui, en fait, tu fais la torpille.
C'est ça.
Pour faire le moins d'efforts possible à la surface.
En fait, le départ se fait tout le temps par une coulée. En fait, c'est la même chose quand tu t'imagines que quand il plonge du plot, c'est pareil. En fait, il faut une coulée après. Ouais. Sauf que là, elle est beaucoup plus conséquente parce que déjà, quand tu plonges, tu as une distance qui est déjà parcourue.
Ouais. Ok, déjà, c'est plus clair pour moi. Bravo. Bah, c'est quoi le crawl, alors, du coup? Parce que là...
Bah, c'est une des quatre nages.
Oui, mais c'est laquelle? Parce que moi, on dit, ah, dos crawlé, crawlé.
C'est quoi? Le crawl, c'est quand vous mettez les bras. Bon, il ne voit pas les mouvements que je fais, mais c'est les mouvements des bras au fur et à mesure, avec soit la respiration sur deux temps ou trois temps, ça dépend.
Ah, donc le crawl, c'est la nage classique, en fait.
La plus classique, c'est la plus classique, c'est la brasse, c'est celle que tout le monde fait en loisir quoi que ce soit.
Ça, c'est la brasse, enfin, c'est la grenouille.
Vraiment... Voilà. Ouais, voilà, ça, c'est de la brasse. Après, en compétition, on fait de la brasse coulée, pas de la brasse. D'accord. Tout court. Mais quand on apprend à nager, la première qu'on apprend, c'est la brasse, c'est pas le crawl. Parce que le crawl est un peu plus technique, même s'il est pas super difficile. Mais...
D'accord, donc attends, si je résume, la brasse. Version grenouille, qui est la seule chose que je sais faire parce que je suis aquaphobe. Ok, ça c'est la brasse.
C'est la brasse.
Le crawl, c'est quand je lance les bras vers l'avant et je bats des pieds. Donc en fait, c'est la nage entre guillemets classique.
Oui, c'est quand tu mets un bras à gauche, droite, gauche, droite. Et en fait, ta tête, elle reste fixe. En fait, la partie de ton visage est dans l'eau. Ouais. Et après, tu l'as fait pivoter soit sur deux mouvements, soit sur trois mouvements, soit que à gauche, soit que à droite, soit tu t'alternes. C'est comme tu veux. Enfin, ça dépend vraiment de ta respiration et comment t'es positionné sur l'eau. Soit tu le fais en deux mouvements. Quand je dis deux respirations, c'est que tu fais deux mouvements, donc un bras gauche, un bras droit. Ouais. Tu tournes ta tête, tu respires. Un bras gauche, un bras droit, et tu continues, tu fais ainsi de suite. Ou alors, il y en a qui font sur le 3. Et dans ces cas-là, bah, ça alterne. Un côté, c'est à gauche, un côté, c'est à droite.
Ouais, donc en fait, en natation, il y a vraiment un principe de cadence.
Ah oui, totalement.
D'accord, ok.
Mais ça t'apprends au fur et à mesure que tu nages comment est ta position sur l'eau, parce que faut que tu sois vraiment allongé sur l'eau et porté par l'eau. Et si jamais t'es pas allongé et porté par l'eau, en fait c'est comme si t'avais un poids à la cheville qui te retient, en fait.
D'accord. Bah écoute, merci pour ces informations, parce que personnellement je ne suis pas un grand nageur, donc je ne savais pas forcément. Donc, du coup, je vais te poser la dernière question tout concernant. Alors, c'est quoi ton rapport avec la natation? Parce que tu as l'air de bien connaître, quand même.
Alors, mon rapport avec la natation, il est un peu lointain. Quand j'étais... je sais pas, je crois que j'ai commencé vers 13 ans jusqu'à peut-être 17, 18 ans, j'ai fait de la natation. J'ai pas fait des compétitions régionales, mais j'ai fait des... Pas national, pardon, mais j'ai fait des compétitions régionales dans ma petite région de province. donc voilà, c'est un sport que j'adore. Quand je suis dans l'eau, je me sens vraiment très bien. En fait, c'est mon élément, vraiment.
Bah, c'est quoi la sensation pour toi?
Je sais pas. En fait, j'ai l'impression d'être portée, j'ai l'impression d'être d'être en apesanteur totale dans l'eau et de me sentir à l'aise, que je sois sous l'eau ou au-dessus de l'eau à nager. Et du coup, je sais pas, c'est un sentiment peut-être de liberté, en fait, on nage et on a l'impression d'aller, on pourrait aller n'importe où en nageant. Enfin, je sais pas. Après, je parle en piscine. Non, je sais pas, c'est un sentiment où je me sens bien, apaisée. Y a des trucs qui sont hyper relaxants, c'est de faire la planche, donc généralement sur le dos, c'est quand même plus facile.
Et juste, parce que moi sur le ventre, je me noie en fait.
Non, mais c'est possible, mais enfin, c'est pas la même sensation. Mais quand tu fais la planche sur le dos et que tu as tes oreilles qui sont dans l'eau, du coup, ça te met dans un espèce de cocon. Enfin, moi, hein, je parle pour moi, parce que pour le coup, toi, c'est pas ton délire, mais en fait, ça me met comme dans un espèce de cocon et je me sens... t'as plus de bruit, parce que le bruit, il est aseptisé. Ouais. Et du coup, c'est hyper relaxant et tu te laisses porter comme ça, là. J'adore cette sensation, vraiment.
Oui, en fait, c'est une sensation hors du monde, de calme, de bulle à part.
Ouais, c'est ça. C'est en fait, enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un havre de paix, vraiment. C'est, je sais pas, ça recharge mes batteries, vraiment.
Non, mais c'est bien. Merci de ce témoignage, que les gens comprendront pourquoi il y a des amoureux du bassin. Et bah, du coup, on va jouer, comme chaque semaine, on joue avec cette fois en parler de natation. Donc, d'après vous, quelle est la taille d'une piscine olympique en longueur ? Facile.
En longueur, c'est du... En longueur... Eh, franchement, je ne sais plus. Je crois qu'en longueur, c'est du 50 mètres.
Bonne réponse. Ouais. J'espère jouer chez vous. 50 mètres, une piscine olympique, donc celle que vous voyez aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde généralement, celle qui est utilisée pour Léon Marchand et Laure Manaudou, dont on va parler. Une largeur de 25 mètres, un nombre de couloirs de 8 à 2. La largeur des couloirs, c'est 2,50 m, je ne savais pas qu'il y avait
Si, il y a des règles super établies, comme ouais. Ne serait-ce que sur la température de l'eau, le pH de l'eau, enfin tout ça, c'est hyper contrôlé en fait. Et récemment, toutes les piscines de toutes les compétitions ont l'obligation d'avoir exactement les mêmes températures, les mêmes pH et tout ça, alors qu'avant, ça dépendait.
Oui. Bah, j'ai vu un truc qui était hyper intéressant. Il y a une piscine, j'ai pas retenu la ville, mais il y a une piscine de 50 mètres qui est censée être olympique, mais c'est de l'eau de mer. Et comme c'est de l'eau de mer, c'est pas homologué.
Oui.
Parce qu'il faut de l'eau douce en fait.
Ouais.
Et je savais pas que ça allait jusque là, quoi, les règles en fait autour. Et pour la profondeur, c'est 2 mètres minimum, 3 mètres recommandés. Autant dire une angoisse pour moi. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les piscines. Alors bien sûr, en France, nous avons la Fédération Française de Natation.
La FFN.
Exactement, la Fédération Française de Natation. Parce que je rappelle que dans ce podcast, nous sommes bilingues, c'est important.
Sauf que là, tu vas parler d'une athlète française, donc peut-être dis-le en français.
Oh, tout de suite. Question, combien y a-t-il d'adhérents en fait pour la saison 2023-2024, donc de licenciés en France de natation? C'est une question pour toi, pour les auditeurs comme d'habitude. À peu près, bien sûr, combien y a de licenciés en natation en France?
Alors, sincèrement, je pense qu'il y en a pas mal. Peut-être pas autant en région parisienne, parce que franchement, je pense que c'est...
En France, hein, ça va.
Ouais, non mais je sais pas, je dirais dans les 400 000.
411 982 adhérents sur la saison 2023-2024, sans compter les retombées des Jeux Olympiques.
Oui.
Et notamment de notre ami Léon Marchand, qui vont pousser énormément de gens à en faire. C'est énorme. 55% sont des nageuses, donc il y a 210 000 femmes qui sont licenciées là-dessus. Les catégories jeunes comptent une plus forte proportion de filles, mais la part féminine diminue dans les catégories plus âgées. Et oui, plus on avance... Moins de filles gardent la natation, tu peux en parler d'ailleurs, et on tombe à 45% de femmes sur la séquence adulte, et on a à peu près 1300 clubs en France de natation, ce qui est plutôt pas mal. Et dans le top 10, attention question, vous pouvez toujours jouer chez vous, hein, n'hésitez pas, la natation arrive combien sur le top 10 français ?
Alors, je pense pas qu'on, sur le 10, je pense pas qu'on soit dans les premiers, je pense qu'on doit être à la 7-8e place, quelque chose comme ça, parce que du coup... Il y a beaucoup de nageurs en France, mais en fait, c'est beaucoup situé, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est beaucoup situé sur là où on a la mer ou, ou tout ça, en fait. Mais ouais, je pense par là, peut-être la 8e, ouais, un truc comme ça.
Eh bien, très très bonne réponse, c'est 8e, 7e, c'est le golf.
Ah oui, rien à voir.
Mais t'étais pas loin, 8e effectivement, 8e sport pratiqué en France. Effectivement, j'avais pas pensé, mais c'est extrêmement logique quand t'habites à Marseille ou à Bordeaux ou à Biarritz. T'as la mer, donc c'est plus facile pour toi de te projeter. Alors que quand tu es dans des villes plus citadines comme Paris, Dijon, Orléans, en fait, si t'as pas une, comme t'as dit, un coup de cœur, quelque chose qui te met là-dessus, tu vas pas forcément pratiquer de la natation, en fait.
Oui, et puis, je sais pas, mais la natation, en plus, ça fait pas partie pour tout le temps du programme scolaire. Enfin, t'as pas beaucoup de... Vrai. Tu vois, t'en as, hein. T'as des collèges ou même avant...
Collège de mémoire.
En primaire, peut-être aussi, ou t'as, mais en fait, ça fait pas vraiment partie du...
Non.
Donc, y a, si tes parents, ils t'emmènent, si t'as appris à nager, parce que moi, je connais plein de gens qui ne savent pas nager, en fait, tout simplement.
Ah, mais moi, j'ai appris parce que j'avais peur de me noyer. Donc, je suis un piètre nageur. Mais c'est la seule raison pour laquelle je sais nager.
Ça peut être utile, hein, tu sais.
Ah bah, j'ai vu Titanic, je me suis dit, bon, on sait jamais. Savoir nager un minimum. Alors, autre question, évidemment, le prix de l'équipement nécessaire si vous souhaitez effectivement pratiquer de la natation. Ça coûte quand même un peu de sous-sous. D'après toi, à peu près, alors là, on va parler d'un matériel adapté à la compétition. Voilà, donc le maillot, il coûte quelques sous.
Les maillots de bain coûtent cher.
Ouais. Hop, vas-y, dis-nous à peu près, ça de tête, toi.
Je sais pas, parce que ça dépendait déjà. Il fallait le maillot de bain, il fallait le bonnet de bain,
oui,
fallait
y a le bonnet.
Les lunettes qui sont. J'ai aussi quand tu veux avoir des lunettes, c'est un certain prix quand même, du coup. Après, tu avais un pince-nez ou pas, ça dépend. Il y a des nageurs qui le prennent ou qui le prennent pas, ça dépend vraiment. Les pince-nez, c'est ce que vous voyez au. À la natation synchronisée, en fait. Mais il y a des nageurs qui le mettent pour nager.
Des nageuses aussi, j'ai vu aux Jeux Olympiques.
Ouais, il y en a. Mais après, quand tu parles d'un équipement pour une compétition.
Ouais, à peu près.
Ah ouais, non, mais après, t'as le sac, t'as les claques.
Enfin, non, moi, je parlais juste de le fait de.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que c'est entre 200 et 300.
Bien vu. Entre 200 et 400 euros pour un maillot adapté à la compétition et homologué. Parce qu'apparemment, il faut aussi que ce soit homologué, tu vois. Le bonnet de bain, 5 à 15 euros. Mais par contre, les lunettes de natation, ça, je ne le savais pas, pour le délire anti-buée, je ne savais pas que ça allait jusque-là. On part sur du 20 à 40 euros à peu près.
Ouais, ou alors tu peux cracher dedans, ça marche aussi.
C'est bien, ça fait économiser. Vous voyez, comme on peut trouver de l'économie dans le sport, mesdames et messieurs.
Écoute, je sais pas. Parce que des fois, tu oublies tes lunettes, quelqu'un te les prête. Et du coup, faut que tu trouves une technique. Parce que nager avec de la buée, c'est pas franchement l'idéal.
J'avoue. Pour la licence de natation de mémoire, parce que là, j'en trouve pas mes notes. Mais alors, du coup, si vous voulez une licence de natation, vous n'êtes pas obligé de professionnel. Mais si vous voulez être professionnel, c'est à peu près 30 euros pour les moins de 11 ans. Pour les adultes, c'est 50 euros par an. Et si vous voulez pas être professionnel, c'est 22 euros. Donc vous pouvez adhérer à la Fédération Française de Natation pour prendre des cours,
C'est pas excessif.
C'est pas excessif. En fait, ce qui va être cher, ce qui monte le prix, qui peut aller à 150-200 euros par an, même voire 450 pour les énormes trucs, c'est quand vous voulez faire de la compète et vous voulez dans un grand club qui, effectivement, comme tu as dit, a des super installations. Généralement, ces clubs-là sont dans le sud, comme tu as dit. J'ai vu, hein, surtout les régions Midi-Pyrénées, Côte d'Azur et tout. Où là, ça commence à coûter un peu de sous. Mais en vrai, si vous voulez une licence et commencer à en faire dans un club qui est près de chez vous, renseignez-vous, c'est pas si cher que ça. En fait, je pensais pas que ce serait aussi facilement accessible.
Au final. Ouais, non, c'est pas excessif parce que je te dis, en termes de matériel, c'est pas non plus très excessif. Donc, non, c'est vraiment un sport qui est abordable. Donc,
Et là, bah, il nous reste encore 45 secondes, donc je vais meubler.
Oui.
Voilà, parce que vous êtes à l'aise avec nous sur Championne, c'est ça qui est bien. Nous, on est tranquille, on est comme à la maison.
Par contre, je conseille juste un truc, c'est que si jamais quelqu'un qui veut commencer, il voudrait mieux, parce que c'est pas le cas pour tous les clubs, ça dépend où vous êtes, mais prendre un club qui a une piscine olympique, parce que ça fait toute la différence, vraiment.
Ouais, en région parisienne, vous avez Colombes, qui a une piscine olympique, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, mais il y en a quelques-unes, mais peu importe où vous êtes en France. Mais si à un moment donné, il y a deux clubs qui vous plaisent, allez vers celui où il y a une piscine olympique.
Ok, très bon conseil. On va donc partir en musique dans quelques secondes. C'est un morceau que tu as choisi, donc tu vas nous en parler juste après. Parce que j'aime bien quand les invités choisissent le morceau. Merci la régie, c'est parti.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Like I got this music in my mind. the liars and the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Yeah, cause the players gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, hate, haters gonna hate. I'm just gonna shake, 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 shake.
Bonjour à nouveau, auditrices, auditeurs. Je suis toujours Cad, l'homme du 92. Nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1. Vous êtes bien dans l'émission Championne, qui traite du sport féminin. Nous sommes toujours avec Sandrine, dit la nageuse de l'Oise. Ça va, Sandrine?
Oui, ça va.
Très bien. Nous sommes accompagnés évidemment par une régie toujours au top, pouce levé pour eux. Et on va parler plus en profondeur de notre légende du sport, Laure Manaudou, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais avant ça, j'aimerais faire un rappel sur les JO 2024 et te poser la question, est-ce que tu as vibré sur la natation?
Ouais, c'est limite, des fois, je me mettais des alarmes pour pas louper les épreuves de natation. Ouais, clairement. Après... je la regarde pas de la même façon que toi tu pourrais le regarder, par exemple. Moi j'ai observé comment il nage, la coulée, ce genre de trucs. Mais oui, vraiment, enfin, c'était génial.
Ah, c'était top. 4 médailles d'or dans le 400 mètres 4 nages, le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse, le 200 mètres 4 nages. Pardon, pour notre ami Léon Marchand, et ça c'était exceptionnel. 4 médailles olympiques. D'or dans une épreuve, il y a très peu de gens qui font ça.
Et puis il y a le frère de Laure Manaudou qui était sûrement ses derniers Jeux Olympiques. Donc,
ouais, Florent était présent, c'était génial. Et effectivement, c'est la médaille de bronze aux 4x100 mètres. Et ouais. Ça, c'était génial.
Je l'ai vu, la course.
Ouais, ça, j'ai vibré. Et aussi, je voulais faire un petit coucou à Anastasia. J'espère que je vais bien dire son nom, hein, attention. Anastasia Kirpichinkova, qui a remporté la médaille d'argent sur 1500 mètres nage libre. Et je ne savais pas qu'on pouvait aller jusqu'à 1500 mètres.
Si.
Moi, je pensais qu'il y avait 400, 800 mètres, c'était le max, tu vois. 1500 mètres, c'est énorme. C'est combien de... Enfin, c'est trop de tours de bassin pour moi, quoi.
Non, c'est pas... Alors, pour toi, ça paraît peut-être énorme, mais il faut savoir que l'entraînement... Enfin, pour ma part, je ne vais pas parler des autres clubs, mais pour ma part, le club, l'entraînement, on devait faire 1000 mètres avant de faire
D'accord.
au commencement. Donc, en fait, 1500 mètres... j'avais déjà quasiment tout fait juste à l'entraînement, enfin juste aux échauffements.
Ouais, quand vous échauffez, en fait, vous faites plein de longueurs, c'est ça?
Ouais.
Sans vous arrêter.
Enfin, moi, perso, c'était de faire 1 km. Donc, quand vous commencez au début, quand vous sortez de la piscine, vous n'avez plus de jambes. Et après, les 1000 mètres, limite, ils sont faits, tu sors et tu dis, ouais, ok, c'est bon, on continue.
Ouais, c'est vraiment un sport de mental, en plus de la cadence, je trouve, hein, quand même. Il faut avoir un sacré mental pour faire ça. Alors, justement, les nageuses françaises qui sont en vue pour 2025, comme ça, avant de parler de la légende de Laure Manaudou, c'était bien de faire un petit crochet. On a Lucie et Justine Delmas, des sœurs jumelles, qui ont été identifiées comme des espoirs de la natation française en 2020. Elles ont contribué leur progression spécialisant respectivement en brasse et en nage libre.
En brasse coulée, pour le coup. Parce qu'il n'y a pas de brasse en compétition, c'est de la brasse coulée.
Merci de me reprendre. ça ne me dérange pas en plus. Et sont désormais des figures incontournables des compétitions internationales. On a aussi Emma Saarinkone. Non, pardon, je le dis bien ça. Saarinkone, pardon, voilà. Emma Saarinkone. Membre du club de natation de Chevreuse, Emma a été reconnue comme sportive espoir en 2025, témoignant de son potentiel et ses performances prometteuses. Et enfin, on a encore deux sœurs. C'est fou, hein, ce délire de sœurs-frères depuis les Manaudou, je trouve ça excellent. On a Laure et Charlotte Tremblay, qui sont spécialistes en natation artistique. Et ça, c'est de la folie, j'adore ce truc. Les jumelles Tremblay ont représenté la France aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, renforçant le statut sur la scène internationale. Et vous pouvez la suivre sur Instagram, j'en parlerai à la fin de l'émission, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle propose sur Instagram, c'est génial comme contenu. Voilà à peu près ce qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. Mais on va s'intéresser à Laure Malledoux. Bon, alors si je dis Laure Malledoux, toi, ça t'évoque quoi ?
Alors, clairement, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour son sport. Et humainement, je m'identifie sur pas mal de choses de son caractère. Donc non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Eh bien, Laure Malledoux débute la natation à l'âge de 7 ans, sous l'impulsion de Philippe Lucas, son charismatique entraîneur, avec qui elle va éclore sur la scène mondiale. Alors Philippe Lucas, il faut savoir que c'est un vrai entraîneur de compète pour de vrai. Alors il est plus connu pour avoir participé à des émissions de télé-réalité, aller sur des plateaux télé, parce qu'il a un franc-parler vraiment du Sud, bien simple et direct, on va dire. C'était tout un personnage, mais ça reste quand même quelqu'un d'extrêmement professionnel, parce qu'il l'a quand même emmené loin. Et justement, à 14 ans, Laure Malledoux fait ses débuts en championnat de natation junior en championnat d'Europe à Malte en 2001, elle a 14 ans. Elle fait déjà médaille d'argent sur 50 mètres, médaille d'argent sur 100 mètres. Et l'année suivante, à 15 ans, championnat d'Europe junior en Autriche, elle gagne une médaille d'argent, sur 50 mètres sur dos.
Dos crawlé.
Merci. Voilà, vous ne voyez pas, mais je fais un très beau geste de dos crawlé actuellement. Voilà. Elle prend aussi une médaille d'argent sur 200 mètres 4 nages. Et elle prend la médaille d'or, à 15 ans, sur 100 mètres dos crawlé. Je fais le dos, voilà. Ce qui est déjà extrêmement fort. Qu'est-ce que tu penses déjà juste ses performances en junior ? Ça attire tout de suite le
oui, focus, clairement. Mais après, généralement, les nageurs, vous les voyez, ils se spécifient que dans une nage. En fait, ils vont pas. Ils savent très bien nager les quatre. Il y a aucun souci. Mais après, ils ont des spécificités et c'est comment on peut se sentir sur cette nage-là. C'est aussi par rapport au temps qu'ils font, hein, ce genre de choses. Mais, en fait, pour elle, ça paraît, à cet âge-là, ça paraît tellement facile qu'évidemment, on peut comprendre que juste après, elle puisse remporter la médaille d'or. Parce que, en fait, c'est facile quoi, pour elle.
Bah, c'est fou. Déjà, t'as 15 ans, t'as déjà 5 médailles.
Ouais.
4 d'argent, 1 d'or. Donc, je comprends aussi la pression que ça peut mettre à un enfant quand même d'être sur ce niveau-là quoi. Et elle arrive à 17 ans et là sans transition, on est aux Jeux Olympiques d'Athènes, on est en 2004, il fait beau, il fait chaud, c'est magnifique, et là elle réalise un truc historique, elle fait un triplé, médaille d'or 400 mètres nage libre, médaille d'argent sur 800 mètres nage libre, médaille de bronze 100 mètres dos crawlé, je refais le dos crawlé actuellement. Donc, elle fait un triplé historique. Elle gagne la médaille de bronze, la médaille d'argent, la médaille d'or. Elle a 17 ans. Et elle devient nouvelle star du sport français parce qu'elle est carrément téléportée, pour le coup, avec une tension médiatique de fou malade. On va en parler, parce que si vous ne l'avez pas vécu, c'était quand même quelque chose de fou. Et elle est immédiatement comparée à d'autres icônes sportives comme Marie-Josée Pérec, Amélie Mauresmo, dont on a déjà parlé dans les numéros précédents. N'hésitez pas à écouter la rediffusion. Bisous. Elle devient une incontournable figure des médias, quoi. Mais là, elle a 17 ans. Et on la compare déjà à des gens qui, quand ils ont eu leur premier titre, ils avaient déjà, certes, étaient jeunes, mais on parle de 22, 23 ans, 25 ans, tu vois.
Ouais, mais c'est parce que, en fait, si tu réfléchis, enfin, si tu repenses bien, la natation, c'est vraiment pas mis en avant, ne serait-ce que quand c'est les Jeux Olympiques. Sinon, en reste du temps, on t'en parle pas. On ne passe pas les compétitions nationales ou mondiales qu'il pourrait y avoir pour être sélectionné pour ensuite aller aux Jeux Olympiques. Et en fait, le truc, c'est que là, entre guillemets, on a découvert Léon Marchand. Mais Léon Marchand, en fait, quand tu réfléchis bien, ça fait pas juste quelques mois qu'il nage, ça fait énormément de temps. Sauf que comme c'est pas mis en lumière, la transition entre les compétitions qu'il pouvait faire et qui sont où il y a absolument pas de presse ni quoi que ce soit, arriver là et être submergé par tout ça, c'est juste dingue. Mais c'est parce que en fait, avant, on n'a pas permis de mettre ça en lumière, en fait.
Oui, complètement. En fait, c'est à partir du moment où ils touchent les étoiles qu'on parle d'eux.
Qu'avant, ils les ont déjà fait. Enfin, ouais. Si tu les avais suivis en compétition mondiale, t'aurais bien vu qu'ils faisaient des temps absolument monstrueux, en fait. Mais non, on le voit pas.
Ouais. Et du coup, comment tu l'as vécu ce en tant que spectatrice, pour le coup, mais quand même amoureuse de natation, cette petite fille de 17 ans qui gagne, elle fait son triplé à Athènes et hop, on en parle d'elle. Mais vraiment, pour le coup, si vous y étiez pas, je vous le rappelle, on parle d'elle matin, midi, soir. On ne fait que parler de Laure Malledoux, quoi.
pour ceux qui étaient pas là quand ça s'est passé, faut juste imaginer que c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Léon Marchand aux Jeux Olympiques.
Ouais.
C'est vraiment la même chose, sauf que là, c'était vraiment comme une jeune fille de 17 ans qui, pour le coup, qui avait quitté ses parents à 14 ans et qui vivait chez, chez Monsieur Lucas.
Ouais.
Donc, en fait, qui a pas sa structure familiale assez proche et qui se retrouve... Enfin, moi, j'ai vu des images. Vraiment, elle sort du bassin parce qu'en fait, du coup, elle a fini son entraînement. Et en fait, elle ne peut même pas monter en dehors du bassin pour aller chercher sa serviette qu'il y a à peu près 15 journalistes autour d'elle. Mmh. C'est trop. En fait, c'est trop. Vraiment. Et pour qui que ce soit, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est trop, c'est pas possible.
Ouais, donc, c'est pour ça qu'on a vu que là, pour les Jeux Olympiques, Léon Marchand, il avait carrément une coach qui gère un peu son image. Et en fait, l'image de Léon Marchand est très, très contrôlée. On sent qu'on a appris à des erreurs en fait, précédentes. On en parlait la semaine dernière, Marie-Josée Pérec, par exemple, qui a subi aussi les médias. Mais Laure Malodou, c'est le cas. Donc, ça a un peu changé, mais bien ne change pas. C'est-à-dire que quand tu as un sportif français qui explose jeune, généralement les médias lui sautent dessus tout de suite. Quoi. Et comme tu as dit, ils sont pas... peut-être c'est un peu différent dans le professionnel 2025 si on a pris connaissance de ça avec les réseaux sociaux, mais enfin, en tant qu'un en 2004, il n'y a personne pour préparer aux médias ces jeunes sportifs, en fait.
Oui, parce que maintenant, dans différents sports, maintenant, tu as des coachs mentaux. Donc, ça t'aide à gérer tout ça. Mais si tu regardes bien maintenant, pendant les compétitions ou pendant les entraînements, là, cette année, pendant les derniers Jeux Olympiques, le bassin d'entraînement, parce qu'avant que tu commences une compétition, tu vas t'entraîner dans un bassin qui est plus chaud. Un autre bassin, il n'était pas filmé.
Oui.
On n'a absolument pas vu, il n'était pas filmé, ils étaient au calme, tranquille. Chose que c'était pas du tout arrivé pour l'or, parce que en fait, là, les journalistes, ils étaient carrément au pied de l'eau, quoi.
Ouais, ouais, ils étaient vraiment très, très proches. Alors, Laure Malodou aussi, c'est trois médailles d'or au championnat du monde de Melbourne en 2007. C'est une dinguerie. Voilà, 400 mètres nage libre, 200 mètres nage libre, 4 nages, c'est folie. Elle accumule les titres continentaux, notamment au championnat d'Europe, sur 400 mètres, 800 mètres. Elle a un record du monde, bon, qu'elle n'a pas gardé aujourd'hui, mais elle a quand même un record du monde sur le 200 mètres et le 400 mètres nage libre, qu'elle obtient le 400 mètres à Budapest en 2006. Et elle va se faire battre par sa rivale Federica Pellegrini. Elle a aussi le record sur 400 mètres, mais également c'est Pellegrini qui va la battre. Mais bon, aujourd'hui, c'est bien, le record de Pellegrini n'existe plus sur le 200 mètres. C'est Ariane Titmus, l'Australienne, qui d'ailleurs a aussi le record sur 200 mètres. Alors elle, c'est une pépite, voilà. Et parlons un peu de sa rivale, parce que c'est aussi ça, Laure Malodou, malheureusement. Ben, elle se blesse en 2009, mais il y a surtout ce gros problème, c'est-à-dire qu'elle part, elle quitte Georges Lucas pour aller s'entraîner avec un coach italien, qui sera aussi coach de Federica Pellegrini, et ça va très mal se passer avec son petit copain. La presse ne va lui faire aucun cadeau.
Totalement.
On va mettre des photos très intimes sur Internet.
Des photos, quoi. C'est des vidéos, en fait, c'est une sextape.
Ah, carrément. Moi, ouais. Je croyais que c'était que des photos.
Non, ça a été jusqu'à là, en fait. C'est horrible, la pauvre.
Et en fait, ça va carrément détruire son image. Même quand elle va se blesser, elle reviendra pour la saison 2011-2013. Elle ne gagnera aucun titre. Et ça va la blesser profondément. D'ailleurs, c'est sorti en janvier. Il y a un documentaire, L'Or, sur Canal+. Il y a son autobiographie en 2014. C'est quelque chose qui va la marquer de fou. Parce que clairement, les médias vont la mettre plus bas que tard. Quoi.
Mais c'est surtout que c'est quelqu'un de timide et d'introverti. Donc, c'est encore, je pense, plus difficile à accepter.
Mais encore une fois, on en parlait la semaine dernière, mais c'est un traitement qui est juste injuste, en fait. Pourquoi elle apprend autant de sauce comme on a dit, en plus, elle n'avait pas forcément de coach mental, donc ça va lui faire beaucoup, beaucoup de mal.
Oui, ça n'existait pas à cette époque-là, le coach mental. Mais c'est surtout que, en fait, quand il s'est passé ce qui s'est passé, elle n'était plus avec Lucas. Mm-hmm. Et elle était loin avec des gens qu'elle ne connaissait pas, et le seul, enfin, qu'elle connaissait plus ou moins. Et le seul qu'elle connaissait, c'était à ce moment-là son petit ami qui, au final, l'a trahi. Donc. Après, elle s'est remise, elle est retournée voir son grand frère qui du coup l'a entraîné.
Nicolas Manodou, ouais.
Du coup, qui entraîne et du coup qui a aussi entraîné le petit frère.
Florent.
Et qui est pour se ressourcer et se remettre parce que, enfin, certes, à cette époque, il n'avait pas l'essor des réseaux sociaux de maintenant, mais c'était genre omniprésent tout le temps, on en parlait tout le temps. Enfin, les photos et des extraits de vidéos ont été relayés, c'est horrible.
Ouais, et surtout son rôle après en extra sportif après avoir pris sa retraite, c'est vraiment d'avoir beaucoup entouré son frère, qui est devenue un grand champion, et elle l'a vraiment préservé de ça. Et bien entendu, elle a eu son hommage parce qu'elle porte la flamme olympique. Ça, c'est génial. Elle va être aussi, elle va commenter les épreuves de natation justement pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ça,
c'est génial. Vraiment, franchement, les commentaires, ils sont vraiment. Je sais pas, enfin, vraiment, ça change tout.
Ils t'ont transporté.
Ouais, clairement. Et en plus, quand, en fait, à un moment donné, son frère, il est là et il fait, je crois que c'était son 50 mètres nage libre. Et il faut savoir que sur un 50 mètres, limite, il respire pratiquement pas, parce que c'est trop court. Et en fait, le truc, c'est qu'elle est là et limite, à la fin, elle pleure. Enfin, c'est vraiment, c'est touchant.
Non, mais de toute façon, on va en parler un peu dans la partie 3, puisque là, ça va être le moment de mettre un peu de musique. Et bien, à tout de suite, auditeurs, auditrices. Petite page de musique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bonjour à nouveau, auditrices, auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1, je suis bien Cad, l'homme du 92, vous êtes toujours dans l'émission Championne, et aujourd'hui nous parlons natation, prenez votre bouée, on va continuer à parler de plein de choses aquatiques. Pour m'accompagner, j'ai toujours Sandrine avec moi, ça va toujours Sandrine?
Toujours, sinon tu serais tout seul.
Tu passes un bon moment, ça, tu t'es pas enfui?
Non, ça va.
Très bien. Et bien sûr, on a toujours la régie en place, pouce levé pour eux, un grand merci. Alors maintenant, on va parler de plusieurs choses, mais déjà, parlons du morceau qu'on a écouté un peu plus tôt. C'était Taylor Swift,
oui.
C'était Taylor Swift, bien sûr. Chez qui, pourquoi on l'avait choisi? Pourquoi tu l'as choisi?
Je l'ai choisi parce que c'est un morceau qui me met de bonne humeur. Des fois, t'as comme ça, t'as des morceaux, tu sais pas pourquoi, mais ça te fait bouger, peu importe en quelles circonstances. Et moi, c'est c'est quelque chose qui tout de suite me donne la pêche.
Eh bien, moi, j'ai choisi Aretha Franklin Freedom, déjà parce que le titre, il est ouf. Et parce qu'en fait, je me suis aperçu que la version qu'on a entendue là, qui est la version populaire que tout le monde connaît, c'est-à-dire rythmique, c'est la version du film Les Blues Brothers. Et parce qu'avant, c'était juste une petite balade. C'est la même chose, mais en plus calme. Et ça n'a rien à voir, je préfère vraiment cette version un peu énervée, un peu dansante, un peu folle.
Oui, parce que l'autre version, je la connais pas.
Justement, je crois qu'en fait, personne ne la connaît, sauf les gens qui sont nés qui devaient avoir 15-20 ans avant les années 80. Mais en fait, donc je préfère cette version, c'est la version qu'on entend partout. Et je savais pas que c'était la version du film, en fait, qui est beaucoup plus dansante. Donc moi, je l'adore. Puis Freedom, voilà, quoi, c'est la liberté. Si vous avez envie de faire du sport, n'hésitez pas. On va conclure avec Laure Malonou, évidemment. Alors, cette grande championne, hein, bien sûr, plus emblématique du sport français, oui, avec des titres olympiques de fou, des records du monde qu'elle aura, bon, qu'après ont été dépassés, mais elle a quand même eu des records du monde, c'est pas rien, c'est pas tout le monde n'a ça dans son palmarès. Extrêmement connue à l'international, bon, malgré les déboires médiatiques, Laure Malonou, ça reste quand même une légende de ce sport. Elle est jeune parce qu'elle prend sa retraite seulement à 26 ans.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'en fait, moi je pensais qu'elle a pris sa retraite à 35, rien à voir, hein. 26 ans. Et donc aujourd'hui, elle est très active encore dans les médias, comme on a dit. Elle va commenter la natation, elle a transporté la flamme. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'affection pour cette nageuse parce qu'effectivement, elle est simple. J'adore son lien avec son frère. Et surtout, comme je l'avais dit la semaine dernière, quand Léa Salamé pour les Jeux Olympiques invite Marie-Josée Pérec et Laure Malonou sur le même plateau, ensemble, côte à côte, alors que les deux ont subi des atrocités médiatiques, vraiment des choses énormes, et qu'elle répond à une journaliste, je trouve ça extrêmement fort de caractère d'avoir réussi à venir donner du positif et qu'elle soit côte à côte alors qu'elles ont vécu la même chose. Je trouve que c'est extrêmement symbolique.
En fait, je suis pas trop d'accord quand tu dis qu'elles ont vécu la même chose sur un fond, peut-être, mais en fait, je trouve ça pour le coup assez alarmant. Parce qu'en fait, oui, elles ont subi une pression de la part des médias. Mmh. Et heureusement, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, sinon, évidemment, ça aurait été avec. Mais en fait, c'est quand même dingue de voir que malgré les années qui espacent ces deux grandes athlètes, je trouve que l'attaque n'a fait que de progresser et d'aller dans le plus intime et le plus encore plus...
personnel, ouais.
Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté juste dans le fait de faire du tort à une athlète. C'est en plus, on a été entre guillemets, dénicher des trucs de sa vie privée, vraiment très privée, et de la mettre dans une position qui est très compliquée. Enfin, comment on peut essayer de défendre alors qu'elle n'y est absolument pour rien? Et la honte, pour le coup, c'est elle qui la porte alors qu'elle ne devrait pas.
Oui, et puis c'est surtout, quand je dis elles ont subi la même chose, c'est-à-dire l'acharnement des médias,
oui.
En fait.
Oui, ça en est d'accord, mais...
Sur de l'extra-sportif. C'est-à-dire que Marie-Josée Pérec, on l'a attaquée sur le fait qu'elle traîtera la patrie. Quel rapport, en fait? Oui. Elle n'a juste pas participé à des Jeux Olympiques parce qu'elle se sentait mal. Je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas être excusée là-dessus. Et deuxièmement, Laure Malonou a été attaquée sur des photos d'elle et donc la vidéo d'elle intime sur Internet, ce qui n'a rien à voir avec ses performances. Donc en fait, c'est ça que je trouve qui est injuste. C'est qu'elles ont été attaquées sur des faits personnels, sur des opinions. Alors qu'en fait, c'est juste des athlètes. Si tu veux les critiquer, t'attends qu'elles gagnent ou pas la médaille. Tu peux critiquer leur performance, tu peux critiquer comment elles s'entraînent, soit. Mais ça s'arrête là. Et c'est ça. Pour moi, les médias sont allés trop loin.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Ah oui, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré les années qui séparent les deux athlètes, il n'y a pas eu de progression. Au contraire, j'ai l'impression qu'on a encore plus régressé. C'est ça que je voulais dire, en fait. Mm-hmm. C'est que... Et je pense que les deux soient là sur le plateau, c'est encore quelque chose de fort. Et elles l'ont dit, si jamais vous avez regardé l'émission de Léa Salamé, elle l'a dit, en fait. Ils ont dit, mais maintenant, il y a des coachs pour le mental, ils sont entourés, ils sont protégés. Et l'air de dire, nous, c'est ce qui nous a manqué. Et clairement, c'est très bien. Et on a vu comment a été protégé Léon Marchand, et, d'ailleurs, qui n'a jamais été à cette émission.
Oui, exact, c'est vrai. C'est vrai qu'il il n'est pas venu.
Non, mais c'est ça. Enfin, vraiment, maintenant, ils sont protégés. Et c'est hyper important.
Non, mais ça, c'est quelque chose qui est hyper important, la santé mentale dans le sport. Je pense qu'on en fera un sujet aussi. Parce que c'est quelque chose dont les athlètes ont pris connaissance après les déboires. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu attendre que des gens très célèbres, avec des performances de ouf, avec des records de malades, se prennent des cartons pleins de la part de médias sur des angles qui sont absolument pas professionnels pour que ça puisse évoluer, quoi.
Et malheureusement aussi, alors après, j'ai pas tous les éléments et j'ai pas fait de recherche dessus, mais je pense que clairement, les attaques comme ça des médias sont beaucoup plus dirigées vers les athlètes féminines que vers les athlètes masculins. Donc, pourquoi à rajouter ? Il y a déjà suffisamment. Donc,
ouais, je suis d'accord.
Voilà, je trouve ça dommage.
Et bien justement, on va rebondir et on va continuer à parler de façon libre. Alors toujours, un disclaimer, rappelez-vous, on n'est pas psychologue, on n'est pas sociologue. Là, on donne notre opinion, notre avis par rapport à notre expérience, notre ressenti, tranquillement. D'ailleurs, elle est sujet à débattre, si vous voulez, dans les commentaires, bien sûr. Et on va parler de l'invisibilité des règles dans le sport. C'est un sujet extrêmement intéressant. Que moi je voulais aborder, on en avait déjà parlé un peu il y a 2-3 semaines je crois, mais ça c'est hyper intéressant, puisque les menstruations dans le sport ça reste un défi physique et psychologique, c'est pas rien en fait. Comme tu as fait de la natation justement en régional, je vais te demander ton expérience, avant, après bien sûr d'introduire des exemples et des anecdotes de personnes à de plus haut niveau en fait. Donc je résume, je suis un garçon, moi je fais de la boxe, il n'y a pas de problème, moi quand je vais faire du foot, je me pose pas la question. Si je suis professionnel, je me pose pas la question. Mes questions vont être sur mon entraînement, ma diététique, ma forme, pas risque de blessure. Le truc avec les athlètes féminines, c'est que si on prend une fille qui va faire de la natation, voilà, ça se contrôle pas. Elle doit aller dans le bassin, mais là, c'est menstruation. Alors, comment ça se passait déjà toi à ton époque ?
Alors, à mon époque, il n'y avait pas 36 solutions. Heureusement, ça a évolué sur les protections qui sont proposées de nos jours aux femmes. À mon époque, c'était simple. Il n'y avait qu'une solution pour aller dans le bassin. C'était potentiellement de mettre un tampon. Il n'y avait pas d'autres protections. Donc après, soit on adhérait, soit on n'adhérait pas. Mais potentiellement, on n'avait pas le choix. Ou alors, on n'allait pas à la compétition, tout simplement. Il n'y avait pas d'autres...
Oui, et c'est d'ailleurs une des raisons, on en parlera après, parce qu'il y a une très belle action de la marque Persil de lessive avec le club d'Arsenal, ou du moins l'équipe féminine d'Arsenal, depuis 2021, justement sur ce sujet, qui dit qu'effectivement, il y a un pourcentage assez considérable, mais il y a bien 45% de jeunes filles qui font un sport, mais qui arrêtent pour cette raison-là.
Oui.
C'est-à-dire qu'aller à la compétition, il y a déjà le souci, effectivement, on va dire visuel en soi, mais surtout le pire. Moi, ce que je trouve qui est le pire, parce que ça, à la limite, c'est pas grave, je vois pas où est le souci, mais bon, il y a des gens que ça dérange.
Bah si, parce que c'est tabou, donc...
C'est tabou pour les plus de 90 ans, tu vois.
Malheureusement, non, pas encore, mais...
Mais du coup, c'est la douleur.
En fait,
ça, je trouve ça fou. C'est-à-dire que tu dois déjà faire un effort physique de malade parce que tu es dans la perf, mais en plus, tu te retrouves avec une douleur supplémentaire de malade que nous, les hommes, on ne peut pas vraiment comprendre, sauf si on met des diodes, parce qu'on ne le vit pas. Et je trouve ça dingue.
Au-delà de ça, t'as pas que ça. Tu as aussi le fait que, du coup, on est submergé... avant, par les hormones et tout ça, donc ça peut générer des maux de tête, au-delà du fait que ça peut générer plein de choses, de la fatigue, on peut être beaucoup plus irritable. Et comme à chaque fois, toutes les menstruations sont différentes selon, je vais avoir quelque chose au mois de février que je n'aurai pas au mois d'avril. Donc au-delà du fait que quand on n'a pas de problème d'endométriose, qui est encore autre chose, parce que là, pour le coup, on ne peut vraiment pas
tu
faire de
mouvement.
Tu peux
rappeler ce qu'est l'endométriose ?
Enfin,
à peu près.
C'est des grosses douleurs au niveau des trompes de Fallope et tout ça. En fait, c'est juste, je crois que c'est des tissus qui sont nécrosés et qui donc donnent des grosses douleurs.
En gros, c'est un mal encore plus, quoi.
En fait, elles peuvent vraiment pas, faut qu'elles soient allongées, alitées, et elles peuvent ne serait-ce que se lever, s'asseoir. Enfin, c'est très, très douloureux, en fait. Okay. Et je sais que tu peux faire des opérations, tout ça, pour aider. Et encore, attention, je connais pas bien, donc je veux pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, ça génère d'énormes douleurs. Et je sais plus ce que je disais juste avant.
Excuse-moi, je t'ai perdu.
Je sais plus. Donc je vais arrêter parce que je sais plus. Je sais plus quelle était ta question en fait.
D'accord. Ma question c'était.
Ce que
ça génère comme douleur. Parce que si je prends un exemple concret, je suis une jeune fille, je suis en demi-finale des Jeux Olympiques de boxe, mais j'ai mes menstruations. Alors déjà dans la boxe, je vais me prendre des coups. Mais là, en plus, je vais avoir une douleur au bas du ventre qui va être violente de ouf. C'est, ça... Pour moi, c'est encore plus dur.
Non, en fait, alors, dans la logique des choses, normalement, les règles ne doivent pas faire mal au ventre.
D'accord.
C'est ce que...
Normalement.
Oui, c'est ce qu'ils disent normalement. Sauf qu'en fait, il y a tout plein de choses autour qui font que... et qui font que cette période-là est assez compliquée à vivre selon les personnes et selon qu'elles soient, comme j'ai dit, qu'elles aient la maladie ou qu'elles ne l'aient pas, l'endométriose. Mais c'est toutes les émotions. Et y a, je pense que ce qui est le plus problématique, en tout cas, de mon point de vue, c'est que du coup, vous êtes là, vous faites du sport. Il faut savoir que dans certains sports, les femmes, elles sont habillées quand même avec des tenues qui sont...
Blanches.
Soit blanche, j'allais dire minimaliste, fois, ou certaines choses. Donc, du coup, c'est problématique parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi pour pas que ce soit vu. Mm-hmm. Et c'est surtout, je pense que c'est psychologique. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes dans cette période-là, vous savez qu'en faisant un sport et potentiellement, vous allez avoir une perte de sang qui va être un petit peu plus conséquente, donc potentiellement un risque de tache. Et donc du coup, ça, psychologiquement, il faut se dire que mince, faut pas que ça tache, parce que malgré tout, ça reste tabou et ça reste un sujet de moquerie, alors que
oui,
ça ne devrait pas. Et c'est d'où le fait que ça rebondit sur la campagne de Percy, parce que justement, ils ont mis des taches de sang un peu partout pour montrer que le sang, bah, c'est du sang, en fait, c'est pas grave, en fait.
Oui, pour rebondir sur la campagne de Percy, elle est extrêmement bien faite. D'ailleurs, les visuels sont magnifiques. Ils ont, depuis 2021, mais en 2025, ils ont refait des visuels. Et l'idée, c'était... dans le sport, le sang, c'est la douleur, mais c'est l'effort. Et donc, on ne doit pas avoir honte de ces taches de sang-là, finalement. Et après, là où je te rejoins sur le tabou, c'est parce que nous, en tant que population masculine, et moi, par exemple, je ne me suis jamais posé la question. Vraiment, parce qu'en fait, on en parle jamais. Donc, je ne me suis jamais dit qu'une nageuse, une tenniswoman, enfin, peu importe, aurait ça en plus à gérer. C'est-à-dire que ça reste une charge mentale, comme tu as dit. En plus, ça dépend de leur génération, ça dépend de leur pays. Dans certains pays, la culture est différente par rapport à ça. Donc, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et c'est une énorme charge psychologique. Si en plus, elles ont de l'endométriose, encore pire. Et en fait, nous, bah, moi, en fait, j'y ai jamais pensé.
Oui, parce que...
Vraiment.
Bah, c'est normal, je t'en veux pas.
Non, mais en tant que spectateur, tu vois, c'est dommage que nous, en tant que spectateur, on regarde tous du sport. Surtout les garçons, on aime bien regarder du sport. Et ça, tu vois, par exemple... Jamais sensibilisé à rien, quoi.
Mais c'est normal, parce que quand tu vois que les campagnes de pub, quand on te fait des campagnes de pub sur les protections, le sang est bleu. Donc déjà, on te montre bien qu'il y a un problème. On te montre bien que, du coup, la couleur spécifique, enfin, ça pose un souci. Alors que, en fait, c'est encore quelque chose que nous n'avons pas choisi. Et voilà, après, maintenant, il y a eu quand même pas mal d'évolutions. On commence à en parler un peu plus. Là, ce spot, il aide. Et pour revenir à ta question initiale du début, c'est que certes, à l'époque, j'avais pas énormément de choix pour faire de la natation. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place, d'où des marques. Il y avait une marque française, mais ça, c'est... Il y en a d'autres qui le font. C'est des maillots de bain qui te permettent d'aller te baigner.
Oui.
C'est le maillot de bain et la protection. Donc, ça change, ça évolue.
Oui, d'ailleurs, tu as une initiative de la part de Nike qui fait un legging spécifique, le legging dry fit, qui est à partir de 45 euros. Il y en a des plus chers pour les compètes un peu plus pro. Vous pouvez trouver ça. Et en fait, c'est carrément une collection dédiée aux menstruations. Donc, ces leggings sont spécialement conçus pour les sportives menstruées, parce qu'en fait, elles ont... j'ai regardé tout à l'heure un peu sur leur site. C'est doublé. Et en fait, c'est hyper discret. Et ils ont dans toutes les couleurs. Donc
c'est ça, il doit y avoir une partie absorbante, en fait, qui te permet d'éviter, justement, les taches.
C'est fou. T'as aussi Adidas qui avait fait sa campagne Impossible is Nothing. Et dans cette campagne, elle met en lumière l'importance de rendre le sport plus inclusif en brisant les tabous, notamment pour les jeunes femmes. Donc, il y a beaucoup d'athlètes féminines qui participent à cette... connues qui participent à cette campagne. Et enfin, t'as aussi le rôle des fédérations qui est important. Par exemple, en 2023, certaines fédérations dans le rugby et le football, pardon, excusez-moi, oui, j'ai mangé un petit truc avant de venir, ont autorisé les sportifs à porter des shorts foncés, tu vois, on en parlait, lors des compétitions, c'est ça que ça m'avait pensé, c'est pour ça que j'ai dit blanc tout à l'heure, des shorts foncés pendant les compétitions pour qu'elles se sentent plus à l'aise pendant leurs règles. Ça faisait suite à des témoignages de joueuses gênées par la peur de fuite sur le terrain. Et c'est hyper intelligent, et je trouve ça super cool qu'elles puissent avoir un short d'une couleur un peu plus sombre pour, bah voilà, tranquille. Parce qu'on parle de fédération, quand tu pars en compétition olympique nationale, voilà, c'est 22 filles qui vont être présentes possiblement sur le terrain, pareil pour le rugby, il y a je sais pas combien de joueuses. Donc c'est une très très bonne idée.
Ça, c'est surtout que le fait d'en parler de plus en plus pour que ça devienne moins tabou, et bah du coup en fait des jeunes filles plus tard pourront se retrouver, même en dehors du sport, pourront se retrouver avec une tache sur leur pantalon sans pour autant qu'elles soient moquées ou montrées du doigt, en fait. Enfin, faut vraiment arrêter de mettre ce ça un tabou, c'est pas tabou, c'est ça fait partie
bah de la vie.
Voilà.
Et donc du coup moi en tout cas, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant.
Ah oui, clairement, on pourra en parler pendant des heures.
C'est exactement ce qu'a dit Elodie la dernière fois et je pense qu'on en reparlera tous les trois.
Ouais,
ça
clairement.
Peut être très sympa. Et d'ailleurs, j'espère que pour en reparler, on réussira à trouver une sportive parce que, qui est pratique, parce que dans un sport particulier qu'on ne connaît pas, ça peut être hyper intéressant. Pour le coup, on va repartir sur les remerciements, évidemment, puisqu'on va devoir rendre l'antenne dans quelques minutes. Alors déjà, merci Sandrine d'être venue.
Bah, je t'en prie.
Ça t'intéresse de venir la semaine prochaine ?
Ça dépend de quoi on parle.
Bon, on décidera après.
Ok.
C'est pas un problème. En tout cas, je te donne un indice. Ça parlera de sport féminin.
Waouh.
Eh, c'est pas classe.
Ah, dès que ça parle de féminin, moi, je suis là, il n'y a pas de problème.
Merci à la régie, évidemment, comme d'habitude, ça c'est cool. Les comptes à suivre cette semaine, donc moi, le compte de Laura Tremblay, voilà, équipe de France de natation artistique. N'hésitez pas, elle a un compte Instagram, plein de choses hyper sympas, ça c'est très 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 cool,
c'est
j'aime
très,
beaucoup.
C'est très très dur la natation artistique, c'est excessivement c'est dur, vraiment.
Et comme d'habitude, le compte de l'équipière sur Instagram et Twitter, qui parle de foot féminin, je les aime bien, ils mettent plein de choses. T'avais peut-être un compte
Oui, mais je crois que t'en avais déjà parlé.
C'est pas grave, on donne le.
Parce que du coup,
je après, c'est le mot
c'est
de
moi
la fin.
Qui avait dû donner le nom. C'est le compte de Oudio Emma. C'est une sportive engagée qui est une athlète olympique.
Ouais.
Et qui en fait fait tout pour agir pour l'égalité par le sport et dans le sport. Et donc elle est ambassadrice de pas mal de choses, dont l'UNESCO. Donc c'est très intéressant.
Eh bien, c'était le mot de la fin. On va se quitter avec le générique comme d'habitude. Et merci à tous. Que la force soit avec vous. À bientôt.
Au revoir. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside. In search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started.
Écoutez Aligre FM 93.1.